se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bienvenue sur Présence, très heureux de vous accueillir en ce premier lundi de reconfinement. Nous sommes ensemble avec toutes vos émissions, comme dans 10 minutes. Isabelle Honnel sera avec Thierry Cabane, président de la Fédération de chasse du Tarn-et-Garonne. Dans 20 minutes, votre sélection télé avec Emmanuel Hernandez pour ce soir, en deuxième partie de l'heure. Le tour des diocèses, nous partons à Rodez. Et en fin d'heure, votre chronique santé, le sujet sera sur les librairies. Juste avant, comme d'habitude, comme tous les lundis, l'essentiel de l'actualité régionale avec Luc Vidal-Giraud.
Les grandes surfaces devront à compter de demain fermer les rayons de produits non essentiels. Samedi, un courrier co-signé par une cinquantaine de maires de grandes agglomérations a été adressé au Premier ministre Jean Castex à propos du traitement inégal entre les commerces de proximité et les grandes surfaces commerciales. Les maires de Toulouse, Bordeaux, Pau, entre autres, ont signé ce texte. La mairie de Toulouse annonce que le stationnement est désormais interdit aux abords de tous les bâtiments publics, écoles, gares, centres commerciaux sont notamment concernés. C'est l'une des conséquences du plan Vigipirate qui a été élevé au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire. Conséquence du confinement, entré en vigueur jusqu'au mois de décembre, l'Assemblée plénière des évêques de France, qui devait se tenir à Lourdes du 3 au 8 novembre, a été annulée. Plus précisément, elle se déroulera en visioconférence, chaque évêque restant dans son diocèse. À noter que tous les jours, entre 15h30 et 16h, les évêques rejoindront la prière du chapelet de Lourdes et proposeront une méditation particulière. Un incendie d'origine criminelle a touché une antenne relais 5G à Toulouse la nuit dernière. Les faits se sont produits dans le quartier de Rangueil. Les pompiers étaient toujours sur place ce lundi matin. On devrait très prochainement connaître le nom de l'entreprise en charge de la production de la future troisième ligne de métro à Toulouse. Tisséo devrait en communiquer le nom dans la semaine. Après un appel d'offres pour lequel quatre candidats ont répondu, deux d'entre eux tiennent la corde, l'espagnol CAF, associé à Thales, et le français Alstom. Il passera par la Haute-Garonne avec deux étapes. On connaît désormais le parcours du prochain Tour de France avec une arrivée le 13 juillet à Saint-Gaudens, après un départ du Pas de la Case, puis le lendemain 14 juillet, un départ de Muret avec trois cols en affilade pour une arrivée au col du Portet à Saint-Marie-Soulan. Le lendemain, le 15 juillet, les coureurs partiront de Pau vers une nouvelle arrivée au sommet à Luzardiden après avoir franchi le Tourmalet. La situation financière de Gourdon dans le Lot serait préoccupante. C'est ce qu'indique un rapport de la Cour régionale des comptes publié fin octobre. Dans son rapport, la Chambre avance quelques pistes de réflexion pour endiguer la situation, à commencer par la maîtrise des charges à caractère général, l'augmentation de la durée du temps de travail du personnel ou encore la diminution des subventions versées aux associations. Et puis rugby, top 14, le stade de Toulousain qui se déplaçait à Paris a été très lourdement battu par le stade français 48-14. Défaite de Pau face à La Rochelle 35-24. Castres a battu le Racing 28-26. Au classement, Toulouse est 3e, Pau 7e et Castres 13e.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour l'essentiel de l'actualité.
La météo.
Pour cet après-midi, 20 degrés en moyenne dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain, des averses pour tout le monde. Vous aurez 11 degrés dans le Lot ainsi qu'à Saint-Gaudens et Lourdes. 12 près de la médiathèque de Toulouse et dans le Gers l'après-midi. Ça ne change pas, vous aurez toujours besoin de votre parapluie avec votre attestation de sortie. Si vous allez par exemple faire les courses, 13 degrés près de la cathédrale à Cahors et à Montauban ainsi que dans la ville de Auch. 12 en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. La température la plus basse sera de 9 degrés dans l'Aveyron.
Présence à Bourdeuil 94.
Va-t-on vers une interdiction de la chasse? C'est la question que vous posez à votre invitée Isabelle.
Bonjour Thierry Cabane.
Et bonjour madame.
Merci d'avoir accepté cette invitation que nous avions calée avant les vacances. Hein. Vous êtes président de la Fédération de chasse du Tarn-et-Garonne, vous êtes l'un des trois vice-présidents de la Fédération nationale des chasseurs. Alors ce matin, on l'a dit, on va mettre sur le tapis cette hostilité grandissante à l'encontre des chasseurs. Mais avant cela, tout de même un mot sur ce confinement. En quoi est-ce qu'il vient impacter la chasse, Thierry Cabane?
Alors, c'est très important. À ce jour, la chasse au petit gibier est fermée. Tous les petits gibiers sont fermés. Le grand gibier est fermé aussi. Nous attendons des dérogations aujourd'hui du ministère afin de pouvoir pratiquer la gestion et la régulation du sanglier et du chevreuil. Dossier qui est considéré comme intérêt général parce que nous avons beaucoup, beaucoup de dégâts sur les productions agricoles et beaucoup d'accidents dans la circulation aussi.
C'est ça les conséquences si les animaux ne sont pas chassés. On va s'interroger du coup au rôle de la chasse. Quel est-il ?
Ah ben là, on est en plein dedans. Hein. Si nous ne régulons pas pendant 2 mois, si on part sur un confinement de 2 mois, ça va être catastrophique au niveau de la régulation de ces populations. Dans la mesure où on ne pourra pas en diminuer le nombre, il n'y a que nous qui pouvons faire la régulation. Le sanglier n'a pas de prédateurs et le chevreuil non plus. Donc ça va devenir impossible de rouler si nous n'allons pas à la chasse. Et les agriculteurs vont être complètement dévastés. Et nous, on ne pourra pas payer parce qu'en plus, on doit payer les dégâts. Donc si on ne peut pas chasser et si on doit payer, nous allons avoir un problème sérieux.
Quel rapport entre le fait de payer et le fait de chasser ?
Eh bien, si nous ne pouvons pas chasser, je remets en cause le paiement que nous devons aux agriculteurs. Les agriculteurs, dès qu'ils ont des dégâts sur leur culture, c'est nous qui payons intégralement l'ensemble des dégâts. Donc si nous ne pouvons pas chasser, nous ne payerons plus.
Alors vous avez parlé d'une mission d'intérêt général, c'est ça dont il s'agit ?
Oui, le gouvernement reconnaît notre mission d'intérêt public et d'intérêt général dans la régulation de ces espèces. C'est pour ça que, avec le confinement, la chasse, bien sûr, au petit gibier, qui peut être considérée chasse loisir, va être supprimée. Mais la chasse au gros gibier, sous des contraintes, bien sûr, et c'est normal, sanitaires très strictes, nous pourrons continuer à réguler ces espèces.
Qu'est-ce que vous entendez par régulation ? Concrètement, ça se passe comment ? On vous donne un nombre d'espèces à tuer, c'est ça ?
Alors, il y a deux cas différents. Le sanglier n'est pas soumis à plan de chasse. Chaque département et chaque chasseur et chaque équipe de chasse peut tuer les sangliers qu'elle souhaite. Par contre, pour tous les cervidés, grands et petits, le cerf et le chevreuil, c'est un nombre qui est décidé avec l'État, avec les professionnels de l'agriculture, les forestiers, les louvetiers, c'est une commission tout à fait officielle, qui décide le nombre d'animaux que nous devons prélever. Et c'est une obligation que nous avons de les prélever. Parce que si nous ne les prélevons pas, nous sommes en défaut vis-à-vis de la loi.
Oui, c'est ça qui est surprenant. Vous pouvez nous donner un exemple, combien de chevreuils, combien de cervidés vous devez tuer pour le département du Tarn-et-Garonne ?
Alors le Tarn-et-Garonne, on doit tuer 7500 chevreuils et 300 cerfs. Et nous prélevons 4000 sangliers.
Et alors là, nous sommes donc dans une période de confinement. Vous nous dites le petit gibier pour le moment est fermé. Vous attendez des dérogations. Est-ce que pendant cette période et de façon plus générale, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que les espèces soient prélevées, soient régulées, comme vous utilisez ce mot, différemment, autrement ?
Eh bien, j'attends que vous me proposiez une solution. Il n'y en a pas 50 pour réguler des sangliers, réguler des cerfs et des chevreuils. Je ne vois pas comment on peut faire sans les chasser. On a toujours pas la solution. Hein. À moins de lâcher des loups et des ours, c'est ce que veulent nos opposants. Ils considèrent que de lâcher les grands prédateurs remplacerait les chasseurs. Mais ça va être très compliqué pour nos amis éleveurs. Très, très compliqué.
Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des battues avec des gardes-chasse ? Comment ça se passe hors de nos frontières ? Je crois que la Suisse a essayé de mettre ça en place.
Ah oui, on a un très bel exemple sur le canton de Genève où ils ont décidé d'arrêter la chasse. Ils ont payé des brigades de tueurs qui prélevaient les animaux la nuit et ils se sont aperçus au bout de 3-4 ans que bien sûr quelques fonctionnaires n'arrivaient pas à remplacer le travail de quelques milliers de chasseurs. Donc c'est un dossier qui revient sur le tapis. On ne peut pas remplacer vous imaginez 1 million de bénévoles qui vont à la chasse et qui font bien sûr d'autres choses sur le terrain. Vous pouvez les remplacer par des fonctionnaires ? Impossible. En Tarn-et-Garonne, nous avons une douzaine de louvetiers. Ce sont des chasseurs mandatés par l'État pour nous remplacer. Mais 10 louvetiers ne vont pas pouvoir remplacer 7000 chasseurs tous les week-ends. C'est impossible.
Alors, vous imaginez bien là où je veux vous emmener, Thierry Cabanne. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes président, on l'aura bien compris, de la Fédération de chasse du Tarn-et-Garonne, l'un des 3 vice-présidents de la Fédération nationale des chasseurs. Là où je veux vous emmener, c'est évidemment vers la cruauté que certains pointent du doigt concernant la chasse. La chasse à la glu a été suspendue au mois de septembre, on s'en souvient, pour cette raison. On a tous en tête aussi les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux fin septembre, de ce cerf essoufflé qui allait trouver refuge près des villes. Là, c'était la chasse à courre qui était en jeu, en cause. Sur la cruauté de la chasse, c'est la raison pour laquelle je vous amenais à vous dire, si vous avez besoin de réguler les espèces, pourquoi ne pas le faire autrement ?
Alors, dans votre propos, je vois deux questions différentes. La chasse à la glu, bien sûr que nous avons été sacrifiés sur l'autel de la politique. Par contre, les gens ne savent pas ce que c'est la chasse à la glu. Ce n'est pas un tube de colle U avec laquelle nous mettons sur une brèche pour attraper les oiseaux. C'est une chasse ancestrale qui, à partir de colle végétale, l'homme a compris qu'il pouvait attraper des oiseaux. Ces oiseaux sont bien sûr gardés, vivants, et ils servent à être appelants pour chasser d'autres oiseaux. Et en fin de chasse, ces oiseaux sont relâchés. Donc nous avons bien sûr, c'est notre faute, hein, on n'a pas su communiquer sur ces chasses traditionnelles. Donc la chasse à la glu est une chasse complètement écologique et qui a subi, je le redis, l'arrivée de Barbara Pompili. Quant à la chasse à courre, bien sûr que vous dites que nous sommes cruels, mais la nature, elle, tous les matins, elle est cruelle. Hein. Le premier acte de la nature, il y a toujours quelqu'un qui bouffe quelqu'un. Ça, c'est très simple en forêt. La chasse à courre, le souci de la chasse à courre, c'est qu'on se sert de vidéos quand l'animal arrive en fin de chasse, quand il est épuisé. C'est un combat des chiens contre un animal, le même animal. Et effectivement, il faut que quand l'animal est épuisé, c'est les chiens qui l'attrapent et qui le tuent. Le problème de la forêt de Compiègne, c'est que c'est la ville qui est rentrée à la forêt. Le béton est rentré à la forêt et l'habitat du cerf a été complètement mité. Et effectivement, quand le cerf court devant les chiens, il peut passer dans les zones habitées. Et c'est là qu'on a des scandales vidéo où le cerf est dans une zone industrielle, dans une maison, dans un lotissement, bien sûr. Mais c'est la ville qui est rentrée à la forêt, c'est pas les maires.
Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, Thierry Cabanne, c'est une bataille de communication qui se joue là. Vous avez dit aussi, nous sommes écologiques, nous les chasseurs, on n'a pas réussi à communiquer là-dessus. Comment est-ce que vous, les chasseurs, vous êtes écologiques ?
On n'a pas su le communiquer parce que nos prédécesseurs disaient que pour vivre heureux, il faut aller vivre caché. C'est une grande erreur. Nous faisons des actions tous les jours sur le terrain. Vous prenez que l'exemple de mon petit département. Nous plantons 15 km de haies par an. Nous restaurons une cinquantaine de mares. Nous plantons des jachères mellifères. Nous faisons plein d'actions. Donc tout ça, les gens ne le savent pas. Ils nous voient que c'est le cliché du gars des inconnus encore qui revient. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et on a... C'est ce que je disais tout à l'heure, les bénévoles que nous avons sur le terrain, ils sont tous les jours dehors. Nous sommes les seuls à être dehors toute l'année, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait beau. Et nous sommes sur le terrain et nous aménageons le terrain pour que la biodiversité se développe encore plus que ce qu'elle est.
Alors, vous avez parlé de Barbara Pompili tout à l'heure. Hein. De fait, la ministre de l'écologie hein, vient d'annoncer l'interdiction prochaine des animaux sauvages dans les cirques ou encore la fermeture des élevages de visons pour fourrure. Ces annonces s'inscrivent dans d'autres initiatives qui émergent ici ou là. Je veux parler également du référendum d'initiative partagée d'Hugo Clément. Des initiatives qui semble tout aller dans le même sens, la cause animale qui prendrait, nous dit-on, du terrain. Est-ce que vous craignez, Thierry Cabanne, que la prochaine étape, ça soit l'interdiction pure et simple de la chasse ?
Ah, mais c'est ce que veulent nos opposants, mais bien sûr, c'est un combat de tous les jours. Mais pour revenir sur ce dossier, l'arrivée de Barbara Pompili, ministre idéologique... Le premier, quand il y a un ministre écologique qui arrive en France, la première mesure qu'il prend pour sauver la planète, c'est d'interdire la chasse. Nous sommes persuadés qu'on peut comprendre qu'on ne soit pas aimé, mais il y a beaucoup d'autres actions à faire pour sauver la planète et sauver le climat. Ça devient, le bien-être animal est un combat de tous les jours. Mais vous savez, le bien-être d'un chien de chasse, c'est d'aller à la chasse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la maltraitance animale qui est importante. Qu'est-ce qu'ils disent nos opposants là, sur la maltraitance sur les chevaux ? Vous les entendez parler ? Aucun article, rien. On tue les chevaux, on mutile les chevaux et personne n'en parle. Le combat que nous allons mener aussi, c'est la maltraitance animale, c'est pas le bien-être animal.
Et alors, on parle de Barbara Pompili, puisque c'est votre ministre de tutelle. Et justement, il y a un paradoxe, là, Thierry Cabanne. Elle se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, puisque c'est finalement cette même ministre-là qui vous met des bâtons dans les roues ? C'est ça que vous nous dites ?
Ben oui, ça a toujours été ça. Imaginez un ministre des Sports qui voudrait interdire le foot ou le rugby, ça, c'est inconcevable. Nous, on a un ministre qui n'ouvre pas, bien sûr, et qui ne nous défend pas au niveau européen, qui ne défend pas nos dossiers. Donc nous perdons tous les jours des dossiers parce que le ministère fait la politique de la chaise vide, parce que c'est idéologique, c'est totalement anormal. Nous sommes une activité légale dans une république et nous devons être défendus par notre ministre de tutelle. Ça devient très compliqué à gérer. Mais je crois que le Premier ministre et le Président de la République vont prendre ce dossier en main. Bon, effectivement, ils ont beaucoup de travail cet ainsi et on n'est pas la priorité. Mais ça devient compliqué. Entre les réseaux sociaux et l'attitude de la ministre, ça devient très compliqué.
Ça devient compliqué. Vous êtes, je crois, 7000 chasseurs dans le Tarn et Garonne. Comment cette hostilité, elle se manifeste? Comment est-ce que vous la vivez sur le terrain?
Quand vous dites hostilité, vous savez, c'est une minorité de gens qui nous massacrent sur les réseaux sociaux. Mais c'est un déversoir de haine, ces réseaux sociaux. Donc les gens qui sont mignons la journée, le soir devant leur écran, ils déversent leur haine là, sur l'écran. Donc ça, il faut l'arrêter. On le voit pour autre chose, qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Donc là, il faut faire le ménage. Donc nous, on n'a rien à cacher, on n'a rien à craindre. Et moi, je dis tout simplement à mes chasseurs, soyez fiers d'être chasseurs. Bien sûr, respecter les consignes de sécurité, respecter les autres usagers de la nature. Et nous sommes faits pour vivre ensemble. On le montre depuis très longtemps. Nos territoires, on y vit dedans, on est content d'y être. Et bien sûr qu'on aime le partager avec les autres.
Est-ce que ce sont deux visions de l'écologie qui s'opposent et qui se comprennent rond décidément jamais, selon vous, Thierry Cabanne?
Non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de dossiers en Tarn-et-Garonne avec des associations écologiques. On monte des dossiers ensemble, on va chercher des financements ensemble. La semaine dernière, j'ai reçu la nouvelle responsable d'Europe Écologie Les Verts qui est venue me voir parce qu'elle ne connaissait pas du tout la chasse et elle est venue comprendre. Je lui ai présenté tout ce que nous faisons. Je ne l'ai bien sûr pas convaincu de prendre le permis de chasse, ce n'était pas le but. Mais c'était de lui expliquer tous les travaux que nous faisions et effectivement, ils sont venus à deux, ils ont compris ce que nous faisions. Et je lui ai dit, dites à Jadot le futur candidat aux élections présidentielles, le seul mot d'ordre, lui, c'est d'interdire catégoriquement la chasse. Mais je sens que dans ses troupes, ça commence à avoir quelques fissures. Donc c'est là qu'il faut qu'on travaille à expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons tous les jours.
Eh bien, vous l'avez fait ce matin sur notre antenne. Merci beaucoup, Thierry Cabanne. Vous êtes le président, je le rappelle, de la Fédération de chasse du Tarn-et-Garonne, l'un des trois vice-présidents de la Fédération nationale des chasseurs. Nous parlions ensemble de l'hostilité grandissante à l'encontre des chasseurs et puis des conséquences du confinement sur la chasse. Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel.
Merci à vous de nous avoir laissé la parole. Merci et bonne journée.
Dans 5 minutes, votre sélection télé pour ce soir. En attendant, nous allons faire un coucou aux Cats and Trees, ce groupe toulousain. Bon appétit.
Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying me, and I can live my story differently.
L'agenda télé du jour avec Imanol Hernandez. Imanol, qu'allons-nous regarder ce soir à la télé ?
Bonjour Florian, bonjour à tous. En ce début de semaine, plein de choses à regarder ce soir à la télé. Envie de percer les secrets de l'histoire avec un grand H, je vous propose une mini-série historique intitulée De Gaulle, l'éclat et le secret sur France 2 ce soir à 21h. Cette série vous replonge en juin 40. Le général De Gaulle est dépêché à Londres afin de négocier avec Winston Churchill l'union de la France et du Royaume-Uni pour faire face à l'Allemagne. Mais le 3 juillet, la Royal Navy attaque la flotte française amarrée dans la rade nord-africaine. Comment Charles de Gaulle va-t-il réagir ? Je vous laisse le découvrir ce soir.
Est-ce que vous avez quelque chose de plus vert et avec une pointe d'amour en plus ? Oui, je suis sentimental un petit peu.
Oui Florian, j'ai ce qu'il vous faut, c'est l'amour est dans le pré, c'est ça que vous voulez ?
Oui, tout à fait. Faites-moi voyager.
Eh bien, c'est l'amour est dans le pré qui est ce soir à retrouver à 21h sur M6. Dans ce 8e épisode, les célibataires vont faire face aux mises au point, aux reproches et surtout au premier choix. La pression monte pour les agriculteurs, poussés dans leur retranchement par leurs prétendants et prétendantes qui veulent des réponses. Les séjours à la ferme touchent à leur fin et des sentiments se dessinent. Pour certains fermiers, c'est une évidence, mais pour d'autres, la peur de se tromper est grande.
Maintenant, petit challenge. Est-ce que vous pouvez me trouver un film d'action qui s'inscrit bien dans l'actualité ?
La chute de la Maison Blanche, ça vous va ?
Pourquoi la chute de la Maison Blanche ?
Eh ben c'est sur W9 ce soir à 21h que la Maison Blanche s'effondre.
Okay.
Mike Binning, c'est un film, hein, je précise. Mike Binning, garde du corps du président des États-Unis, n'est pas parvenu à sauver la femme de l'élu au cours d'un accident de la route. C'est triste. Les mois ont passé et Mike, qui reste marqué par l'événement, travaille désormais au département du Trésor. Sa morne matinée de travail est bouleversée quand un commando attaque la Maison Blanche. Témoin direct des événements, il décide aussitôt d'intervenir. Bling, bling, bling. Et Florian, vous entendez ?
Non, qu'y a-t-il ?
C'est les cloches de Noël qui s'approchent. Vous êtes avec les enfants ou les petits-enfants, j'ai pensé à vous. Le bal de Noël, c'est ce soir à 21h sur Gulli. C'est la 18 sur la télécommande.
D'accord, très bien. Je note.
C'est l'histoire d'Heidi qui a toujours rêvé d'être peintre, mais la vie en a décidé autrement. Elle a quitté sa ville natale pour embrasser la carrière de conservatrice de galerie d'art. Pour Noël, elle doit rentrer chez elle pour s'occuper de sa nièce et de son neveu. Heidi se retrouve face à son amour de lycée, Chris, devenu professeur. Il doit retrouver un lieu pour le bal du 25 décembre. Heidi lui vient en aide et déniche l'endroit idéal. Au fil des jours, la jeune femme retrouve le plaisir d'une vie au calme et s'interroge sur son avenir. Va-t-elle se remettre avec Chris ? Il vous suffit de regarder ce soir. C'était ma petite sélection du soir. En vous souhaitant un très bon début de semaine à tous.
Merci Manol, extraordinaire l'accent américain. Merci et à demain pour la sélection du soir.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
L'essentiel de l'actualité, c'est avec Luc Vidal-Giraud. Bonjour.
Bonjour à tous. Ils ont été entendus pour ce qu'ils considèrent être une demande légitime d'équité de traitement. Les grandes surfaces devront, à compter de demain, fermer les rayons de produits non essentiels. Samedi, un courrier co-signé par plus de 50 maires ou présidents d'intercommunalités urbaines a été adressé au Premier ministre Jean Castex à propos du traitement inégal entre les commerces de proximité et les grandes surfaces commerciales. Les maires de Toulouse, de Bordeaux, de Pau, entre autres, ont signé ce texte. Les élus y disent comprendre le reconfinement compte tenu de l'évolution de la pandémie, mais rappellent au chef du gouvernement que leur attachement à la co-élaboration des règles et à leur mise en œuvre au plus près des réalités du terrain. La mairie de Toulouse annonce que le stationnement est désormais interdit aux abords de tous les bâtiments publics, qui sont concernés notamment les écoles, les gares, les centres commerciaux. C'est l'une des conséquences du plan Vigipirate qui a été élevé au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire après l'attentat perpétré à Nice le 29 octobre. Le dispositif Sentinelle passe de 3000 à 7000 hommes, avec pour objectif prioritaire les établissements scolaires, les lieux de culte et les autres lieux symboliques. Conséquence du confinement, entré en vigueur jusqu'au mois de décembre, l'assemblée plénière des évêques de France, qui devait se tenir à Lourdes du 3 au 8 novembre, a été annulée. Plus précisément, elle se déroulera en visioconférence, chaque évêque restant dans son diocèse. À noter que tous les jours, entre 15h30 et 16h, les évêques rejoindront la prière du chapelet de Lourdes et proposeront une méditation particulière. Les mardis 3 et mercredi 4 novembre, les travaux de l'Assemblée plénière porteront sur le thème « Cultiver la terre et se nourrir ». Au cours de leur assemblée, les évêques évoqueront aussi le thème territoire et paroisse et celui de la lutte contre les abus avec un point d'étape des 4 groupes de travail qui ont été mis en place. Un incendie d'origine criminelle a touché une antenne relais 5G à Toulouse la nuit dernière. Les faits se sont produits dans le quartier de Rangueil. Les pompiers étaient encore sur place ce lundi matin. Ce n'est pas la première fois qu'une antenne relais est dégradée dans la région toulousaine. Une antenne relais avait notamment flambé mi-septembre dans la commune de Fenouillet au nord de Toulouse. D'autres dégradations ont été signalées ces derniers mois, notamment dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aude, mais également les Hautes-Pyrénées. On devrait très prochainement connaître le nom de l'entreprise en charge de la production de la future troisième ligne de métro à Toulouse. Tisséo devrait le communiquer dans la semaine. Après un appel d'offres pour lequel 4 candidats ont répondu, 2 d'entre eux semblent tenir la corde, l'espagnol CAF, associé à Thales, et le français Alstom. Le marché est de taille, il est évalué à 800 millions d'euros. Selon des sources proches du dossier, par rapport aux 2 autres candidats, Alstom et CAF jouent à fond la carte de l'emploi local. Un argument de poids en cette période de crise économique. Si jamais l'offre franco-espagnole venait à être retenue par Tisséo, l'un des grands gagnants locaux de cette décision serait particulièrement le site du groupe CAF à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Après avoir remporté en fin d'année dernière un marché de 700 millions d'euros émis par SNCF Mobilité pour construire 28 rames de trains intercités, les équipes sur place sont passées de 130 à 350 salariés, sans parler d'une extension du site de production. Les Pyrénées une nouvelle fois au programme et les Hautes-Pyrénées de nouveau particulièrement gâtées. Le parcours du prochain Tour de France a été dévoilé hier dimanche. Le grand départ se fera depuis la Bretagne à Brest le 26 juin. Il passera par la Haute-Garonne avec 2 étapes, une arrivée le 13 juillet à Saint-Gaudens après un départ du Pas-de-la-Case, puis le lendemain, le 14 juillet, un départ de Muret avec 3 gros cols au programme, Pays-Ressourde, Val-Louron-Azède et pour finir, les 16 km d'ascension qui vont mener au col du Portet à Saint-Lary-Soulan. Le lendemain, le 15 juillet, les coureurs partiront de Pau vers une nouvelle arrivée au sommet, cette fois à Luz-Ardiden, après avoir franchi le mythique Tourmalet. La situation financière de Gourdon dans le Lot serait préoccupante, c'est ce qu'indique un rapport de la Cour régionale des comptes publié fin octobre, à raison de 2380 euros par habitant contre 777 euros en moyenne pour les communes de cette taille. L'encours de la dette est particulièrement élevé à Gourdon. Sa capacité d'autofinancement étant insuffisante, la commune a dû largement recourir à un emprunt dont les 2/3 sont liés au refinancement de sa dette. Dans son rapport, la Chambre des comptes avance quelques pistes de réflexion pour endiguer la situation, à commencer par la maîtrise des charges à caractère général, l'augmentation de la durée du temps de travail du personnel ou encore la diminution des subventions versées aux associations. Pendant le confinement, la musique continue. Faute de pouvoir accueillir le public, l'orchestre du Capitole à Toulouse diffuse ses concerts sur Facebook. Coup d'envoi ce dernier week-end avec un premier concert en direct avec le guitariste Thibaut Garcia depuis la Halle au Grain. L'expérience devrait être conduite pour les concerts des samedis 7, 14 et 28 novembre prochains. Rugby top 14, alors que leurs coéquipiers sélectionnés en équipe de France ont inscrit 3 des 4 essais de la victoire française contre l'Irlande. Les joueurs du Stade toulousain qui se déplaçaient à Paris ont été très lourdement battus par le Stade français. Score final 48 à 14. Défaite de Pau face à La Rochelle 35 à 24. Castres a battu le Racing 28 à 26. Au classement, Toulouse est 3e, Pau 7e et Castres 13e.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour un autre point sur l'actualité en Occitanie.
La météo.
Pour cet après-midi, 20 degrés en moyenne dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain, des averses pour tout le monde. Vous aurez 11 degrés dans le Lot ainsi qu'à Saint-Gaudens et Lourdes. 12 près de la médiathèque de Toulouse et dans le Gers l'après-midi. Ça ne change pas, vous aurez toujours besoin de votre parapluie avec votre attestation de sortie. Si vous allez par exemple faire les courses, 13 degrés près de la cathédrale à Cahors et à Montauban ainsi que dans la ville de Auch. 12 en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. La température la plus basse sera de 9 degrés dans l'Aveyron.
Le tour des diocèses, nous partons dans l'Aveyron avec Isabelle, bonjour.
Eh bien, nous partons à Rodez, dans le diocèse, retrouver notre délégué épiscopal à l'information préférée. Je veux parler évidemment de Pascal Fournier. Bonjour Pascal.
Bonjour Isabelle, notre animatrice préférée.
Pascal, qu'est-ce qu'on note ce matin dans nos agendas? On les a ouverts, j'espère qu'ils ne vont pas rester vierges ces agendas.
Mais écoutez, si les cloches qui annoncent cette chronique quotidienne ne vont pas s'arrêter de sonner, les cloches de nos églises non plus, nos églises vont rester aussi ouvertes pendant tout ce confinement et nos activités vont bien évidemment se poursuivre d'une manière différente. Alors je resterai assez prudent parce que vous l'avez dit tout à l'heure en ouvrant cette émission, Isabelle, c'est la rentrée. nos services vont aussi se remettre en route et puis décider de la manière dont les propositions vont être faites pour le mois à venir. Alors, j'annoncerai simplement une date très proche de nous, ce soir, ce lundi 2 novembre, à la cathédrale de Rodez, à 18h, une messe sera célébrée en mémoire des victimes du Covid et des défunts pendant le confinement, le premier confinement. Cette messe, c'est l'occasion aussi de se remémorer tous les défunts de nos familles, les familles de nos auditeurs, les victimes des événements de la semaine dernière aussi. Voilà, donc messe à 18h ce soir à la cathédrale de Rodez.
Eh bien, c'est bien noté. Je crois, Pascal, que ce matin, vous vouliez profiter de ces dates un petit peu maigres pour mettre un coup de zoom sur un virus, mais alors pas n'importe lequel. Hein.
Celui de la musique, ben, comme le virus des cloches et des églises qui restent ouvertes, peut-être que le virus de la musique ne va pas arrêter de circuler entre nous. Je voulais parler d'un groupe qui s'est formé il y a exactement 10 ans, Isabelle, en 2010, un groupe créé sous l'impulsion d'un jeune musicien, un jeune qui était étudiant à l'époque, qui a créé un groupe à Rodez avec des lycéens pour animer des messes. Alors ce groupe, il a vécu, hein, puisque les lycéens sont partis étudier ailleurs, certains sont revenus. Ce groupe, il a été un petit peu en sommeil, et depuis 3 ans, depuis 2017 exactement, il s'est reformé autour de 12 jeunes, 4 étudiants et 4 lycéens, pour animer des messes dominicales, notamment à l'église du Sacré-Cœur à Rodez. Mais ce que je voulais surtout souligner, Isabelle, c'est que si au départ c'était peut-être un groupe de musicos qui essayait de faire du bruit, qui voulait faire du bruit dans l'église, peu à peu ces jeunes ont cheminé et aujourd'hui, et depuis surtout 2017, ils sont demandeurs d'autre chose, demandeurs d'un travail sur la liturgie, d'un travail sur les voix, sur les polyphonies, sur la rythmique, pour être vraiment au service de la liturgie et au service des assemblées. Donc,
beau
plus
témoignage
qu'un groupe de musique,
que ce groupe.
Aujourd'hui, c'est un groupe d'amis.
C'est un groupe d'amis. Est-ce qu'il y a un nom à ce groupe ?
Pas encore, parce que c'est un groupe qui est un petit peu fluctuant. Ce sont des lycéens, des étudiants, et peut-être que l'idée, c'est d'en faire un groupe qui serait un peu diocésain, qui pourrait aller dans les paroisses qui le demandent pour l'animation des messes. Alors, il y a des choses prévues pour cette année autour de célébrations, autour d'événements qui concerneront les jeunes, mais pas que. Ils ont déjà tourné en 2019 dans plusieurs paroisses pour le plus grand bien des communautés locales.
C'est un peu le Glorious ruthénois, si je comprends bien.
Et vous avez raison de citer Glorious. On pourrait citer aussi Impact, parce que ces jeunes-là s'inspirent de cette musique, tout en essayant de respecter aussi les communautés locales, de respecter une animation ou une musique peut-être plus traditionnelle et plus habituelle. Mais voilà, c'est un espèce de cocktail qui se met en place. Et qui rend et qui garde vivantes nos célébrations et nos églises.
Et on en a bien besoin. Merci beaucoup, Pascal Fournier, d'avoir mis un petit peu en lumière ce groupe à qui il va falloir trouver un nom. Hein. L'appel est lancé. Et puis sinon, les dates, c'est ce soir, vous nous l'avez dit, 2 novembre, messe célébrée en mémoire des défunts à 18h. À dans 15 jours, toujours avec un grand plaisir, Pascal.
À dans 15 jours, Isabelle. Au revoir.
La chronique santé avec Gaëtan Casanova.
Bonjour à tous. Ouvrir toutes les librairies comme toutes les bibliothèques, c'est faire le choix de la culture, c'est un choix citoyen. Cette semaine, je voulais parler avec vous de cette pétition lancée notamment par François Busnel, journaliste et animateur de la Grande Librairie. Je voulais vous parler de cette initiative parce que oui, comme lui, je crois qu'il faut ouvrir les librairies et les bibliothèques. Je crois que justement, en cette période où l'anxiété, où les troubles psychiatriques, où la tristesse, où toutes sortes d'inquiétudes trouvent leur foyer, plus que jamais, il est temps de lire. Il est temps de lire parce que, privés de voyage, ne pouvant sortir de chez nous, de notre région, de notre pays, les livres nous ouvrent les portes de mondes inconnus, parfois étranges, parfois familiers, toujours passionnant. Les livres, c'est l'évasion, mais ce sont aussi les clés de la compréhension. La plus belle des impressions est certainement celle, impérissable, indélébile et invisible, des mots sur l'esprit et parfois même sur le cœur. À une époque où la pensée est immédiate, fugace, le livre nous rappelle à une autre forme de pensée, une pensée ruminée, complexe, construite. Il est temps donc de retrouver le temps, de retrouver cette profondeur perdue qui manque tant à la société de l'instantanéité. Alors que nos pensées nous portent vers des îles exotiques, vers des forêts luxuriantes, vers des plaines vertes et infinies, prenons notre sac rempli de contes, de romans et d'essais, et entreprenons un des plus beaux voyages, celui qui nous amène à l'intérieur de nous-mêmes. Très belle semaine à tous, et à la semaine prochaine.
L'Évangile arrive dans 4 minutes, juste après votre pause musicale pour vous donner du courage avant de recommencer le travail. C'est Liberté des Enfoirés sur votre radio chrétienne. Il est 12h36, bon appétit.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers,
sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur la jungle et le désert,
sur la nuit, sur le jardin,
sur les coins de mon enfance,
j'écris ton nom.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu.
Hier, nous avons fêté les saints, ceux qui nous ont précédés et qui vivent auprès de Dieu dans la communion avec lui, ceux du calendrier, ceux dont nous portons le nom, mais aussi la foule immense de tous ceux qui ont accueilli la parole de Dieu dans leur vie, qui ont cherché à vivre les béatitudes, ceux que le pape François appelle les saints de la porte d'à côté, tous ceux qui humblement, sans faire la une des journaux, simplement, dans leur vie quotidienne, ont cherché à vivre de l'Évangile, en manifestant leur confiance en Dieu, en manifestant l'attention aux autres, la charité concrète, le partage, le pardon, la réconciliation. Oui, heureux sont-ils, nous ont redit les béatitudes, heureux les pauvres de cœur, les artisans de paix, les miséricordieux, les assoiffés de justice, les doux, les cœurs purs, mais aussi Jésus a ajouté « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et aujourd'hui, c'est bien dans cette perspective de la promesse de la vie avec Dieu, de la vie auprès de Dieu, que nous faisons mémoire, que nous prions pour tous les fidèles défunts, ceux de nos familles, ceux que nous avons connus et aimés, ceux qui sont décédés au cours de l'année écoulée, en particulier ceux qui sont morts dans la solitude ou la détresse. Je pense aux victimes de l'épidémie du Covid dans les EHPAD ou les hôpitaux et qui n'ont pas toujours pu être accompagnés de leurs proches et ont vécu ce grand passage dans la solitude où la seule présence bienveillante du personnel soignant. Nous prions aussi pour toutes les victimes des violences en ce monde, les guerres et les conflits qui se multiplient en Syrie, en Libye, au Yémen, aujourd'hui dans le Karabakh. Tous ceux qui sont victimes de la violence et du terrorisme, en particulier ceux qui l'ont été en ces dernières semaines, les professeurs de Conflans-Sainte-Honorine, les victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice. Que le Seigneur accueille tous nos défunts dans sa paix, dans sa lumière, qu'il redonne force, courage, espérance aux proches si durement touchés dans leur affection. Devant la mort d'un être cher, nous nous disons toujours pourquoi. Pourquoi faut-il qu'il y ait une telle séparation, une telle souffrance? Qu'est-ce qu'elle signifie? Vers quoi, ou plutôt vers qui, est-ce que nous marchons? Qu'est-ce qui nous attend au-delà de notre mort? Oui, ceci reste pour nous toujours bien mystérieux, parce que nous ne pouvons pas le décrire, parce que nous n'en avons pas l'expérience. Mais ce que nous savons, c'est la promesse de Dieu. Nous sommes faits pour la vie, et la vie qui ne finit pas, et la vie en abondance. Si on voulait résumer toute la Bible en un seul mot, peut-être faudrait-il choisir le mot d'alliance, ce mot qui nous dit le projet de Dieu pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, établir un lien, une relation unique, une relation d'amour, comme il l'a fait avec le peuple qu'il a choisi, le peuple d'Israël, malgré ses infidélités, malgré l'incapacité qu'il a pu connaître dans son histoire à le reconnaître présent au milieu de lui. Et cette histoire de l'Alliance, elle culmine dans la venue de Jésus, son Fils. Jésus qui est venu partager en toute chose, sauf le péché, notre condition humaine. Jésus qui a partagé la peine, les peines et les joies de ses contemporains. Jésus qui est allé au bout de son chemin, du chemin de l'amour. Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous. Oui, Jésus est mort sur la croix, mais bien plus, il est ressuscité. Il ne meurt plus. Et parce qu'il est ressuscité, il nous ouvre à notre tour le chemin de la vie. Parce que Jésus est ressuscité, nous aussi nous sommes appelés à partager sa vie, à partager la résurrection. La résurrection du Christ, elle est bien le cœur même de notre foi. C'est saint Paul qui nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes, parce que vaine est notre foi. Parce qu'il est ressuscité, il nous appelle, il nous conduit, nous aussi, à la résurrection, à la vie éternelle, au terme de notre vie sur cette terre. Dans les textes que nous avons entendus, c'est bien cette espérance-là qui nous est redite. D'abord dans le livre de la sagesse, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Leur départ est compris comme un malheur, leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui, comme l'or au creuset, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. Voilà déjà le sage qui avait cette espérance en la vie éternelle. Et puis l'évangile de saint Matthieu, dans cette grande fresque du jugement dernier, nous redit que nous serons jugés sur l'amour, sur notre capacité à mettre en œuvre la charité du Christ. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et inversement, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. En priant pour nos défunts ce matin, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il fasse grandir en nos cœurs l'espérance, qu'il nous permette d'accueillir pleinement dans notre vie cette promesse de la résurrection, cette promesse de la vie avec Dieu, pour qu'elle change notre cœur, qu'elle nous permette de vivre de l'amour que le Christ est venu annoncer, réaliser en sa personne, dans sa mort et sa résurrection. Amen.
À Souillac, 104.8.
Dans 4 minutes, vous retrouverez l'essentiel de l'actualité dans votre région avec notre journaliste de Lourdes, Luc Vidal-Giraud. Si vous souhaitez nous écouter et réécouter vos émissions, c'est sur le www.radioprésence.com et sur l'application smartphone pour ne plus se quitter. En attendant, Michel Sardou, avec son titre « Le France » sorti en novembre 1975, ça a 45 ans et cette chanson n'a pas pris une seule ride. Bon appétit si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes sur Radio Présence. Il est actuellement 12h52.
Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille Anglaise, j'en vis les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez France, la France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser Milan. J'étais un géant, j'étais presque, presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour les corps. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Que le plus grand navire de guerre ait le courage de me couler, le cul tourné à Saint-Nazaire, pays breton où je suis né.
jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté.
Radio Présence à Auch 89.6.
L'essentiel de l'actualité, c'est avec Luc Vidal-Giraud sur votre radio chrétienne dans votre région ce lundi 2 novembre.
Les grandes surfaces devront à compter de demain fermer les rayons de produits non essentiels. Samedi, un courrier co-signé par une cinquantaine de maires de grandes agglomérations a été adressé au Premier ministre Jean Castex à propos du traitement inégal entre les commerces de proximité et les grandes surfaces commerciales. Les maires de Toulouse, Bordeaux, Pau, entre autres, ont signé ce texte. La mairie de Toulouse annonce que le stationnement est désormais interdit aux abords de tous les bâtiments publics. Écoles, gares, centres commerciaux sont notamment concernés. C'est l'une des conséquences du plan Vigipirate qui a été élevé au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire. Conséquence du confinement, entré en vigueur jusqu'au mois de décembre, l'assemblée plénière des évêques de France, qui devait se tenir à Lourdes du 3 au 8 novembre, a été annulée. Plus précisément, elle se déroulera en visioconférence, chaque évêque restant dans son diocèse. À noter que tous les jours, entre 15h30 et 16h, les évêques rejoindront la prière du chapelet de Lourdes et proposeront une méditation particulière. Un incendie d'origine criminelle a touché une antenne relais 5G à Toulouse la nuit dernière. Les faits se sont produits dans le quartier de Rangueil. Les pompiers étaient toujours sur place ce lundi matin. On devrait très prochainement connaître le nom de l'entreprise en charge de la production de la future troisième ligne de métro à Toulouse. Tisséo devrait en communiquer le nom dans la semaine. Après un appel d'offres pour lequel quatre candidats ont répondu, deux d'entre eux tiennent la corde, l'espagnol CAF, associé à Thales, et le français Alstom. Il passera par la Haute-Garonne avec deux étapes. On connaît désormais le parcours du prochain Tour de France avec une arrivée le 13 juillet à Saint-Gaudens, après un départ du Pas-de-la-Case, puis le lendemain 14 juillet, un départ de Muret avec trois cols en affilade pour une arrivée au col du Portet à Saint-Lary-Soulan. Le lendemain, le 15 juillet, les coureurs partiront de Pau vers une nouvelle arrivée au sommet à Luzardiden après avoir franchi le Tourmalet. La situation financière de Gourdon dans le Lot serait préoccupante. C'est ce qu'indique un rapport de la Cour régionale des comptes publié fin octobre. Dans son rapport, la Chambre avance quelques pistes de réflexion pour endiguer la situation, à commencer par la maîtrise des charges à caractère général, l'augmentation de la durée du temps de travail du personnel ou encore la diminution des subventions versées aux associations. Et puis rugby, top 14, le stade toulousain qui se déplaçait à Paris a été très lourdement battu par le stade français 48-14. Défaite de Pau face à La Rochelle 35-24. Castres a battu le Racing 28-26. Au classement, Toulouse est 3e, Pau 7e et Castres 13e.
Un rapide coup d'œil sur votre météo en ce lundi pour cet après-midi à 20 degrés en moyenne dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Demain, des averses pour tout le monde. Vous aurez 11 degrés dans le Lot ainsi qu'à Saint-Gaudens et Lourdes. 12 près de la médiathèque de Toulouse et dans le Gers. L'après-midi, ça ne change pas. Vous aurez toujours besoin de votre parapluie avec votre attestation de sortie. Si vous allez par exemple faire les courses, 13 degrés près de la cathédrale à Cahors, à Montauban ainsi que dans la ville de Auch. 12 en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. La température la plus basse sera de 9 degrés dans l'Aveyron. N'oubliez pas, si vous sortez votre petit papier, malheureusement il faut aussi se tenir à un mètre des personnes que l'on aime et bien évidemment le masque qui est indispensable avec le gel hydroalcoolique et vous serez au top. Je vous laisse avec Radio Vatican et je vous dis à demain midi.
À Figeac, 97.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Rentrée scolaire ce lundi en France pour 12 millions d'élèves. Rentrée dans un contexte pesant, celui de la crise sanitaire, bien sûr.